Et ces chants que nous chantons, j'espère que bah, vous réfléchissez bien aux paroles, surtout celui-là, mais bon, tous, parce que bon, les paroles très fortes qui doivent vraiment nous encourager, je pense surtout à la fin de cette troisième strophe, c'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nous, et ainsi il a manifesté l'amour de Dieu. Et cet amour dont nous parlons, quelqu'un qui l'a bien expérimenté, c'était l'apôtre Pierre. Et nous allons revenir dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Vous savez, c'est le dimanche de Pentecôte. Et qui a prêché le jour de la Pentecôte? Eh bien, c'est Pierre. C'est cet homme qui a été totalement transformé par Dieu. C'est quelqu'un qui était impulsif, qui ouvrait trop rapidement sa bouche, qui disait ce qu'il pensait sans trop réfléchir. C'était un peu le porte-parole du groupe, des disciples. C'est quelqu'un qui voulait aller de l'avant, mais s'y prenait assez souvent mal. C'est celui qui a renié, pas une fois, pas deux fois, trois fois, le Seigneur, qui a pleuré amèrement à cause de cela. C'est quelqu'un qui était dans la crainte. C'est quelqu'un qui est passé par bien des difficultés et qui a été miraculeusement et glorieusement transformé par Dieu. Et lorsque nous voyons cet homme, le jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, vous connaissez l'histoire, il se lève devant ces Juifs qui avaient mis à mort Jésus-Christ. Et il leur annonce le salut en Jésus-Christ. Et là, littéralement, des milliers de personnes acceptent Christ comme leur sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous savez aussi, pour Pierre, ce n'était pas toujours facile. Ce n'était pas toujours ces jours glorieux, des milliers de personnes qui se convertissent. À plusieurs reprises, il est appelé devant les autorités juives. Avec Jean, ils se font battre de verges. On leur interdit de parler au nom de Jésus. Quelle est leur réponse? Vous la connaissez? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Il est le Sauveur, c'est celui dont vous avez besoin. Et lorsque Pierre et Jean y reviennent parmi les disciples, acte chapitre 4, ils louent et glorifient Dieu d'avoir été trouvé digne de souffrir pour Christ. Vous imaginez? Et lorsque nous arrivons à la première épître de Pierre, Pierre écrit à des chrétiens qui eux aussi passaient par la souffrance, qui passaient par la persécution, qui passaient par l'injustice. Et Pierre peut compatir avec eux parce que lui-même il est passé par ces choses. Il dit aussi, il y a d'autres qui souffrent. Chrétien du premier siècle, Pierre dit, votre souffrance, elle est réelle. Ne minimisez pas cette souffrance. Mais cette souffrance n'est pas tout ce qu'il y a. Pierre dit, je peux m'identifier avec vous. D'autres peuvent le faire. Et votre bonne attitude, comment vous réagissez face à cette souffrance, peut être un témoignage pour le bien. Lorsque les autres verront comment vous allez réagir face à cela, cela peut être un grand témoignage. C'est ce que nous avons vu dans la première épître de Pierre, chapitre 3, jusqu'au verset 17. Et aujourd'hui, à partir de verset 18, Pierre va prendre un autre exemple. Puisque la souffrance n'est jamais facile. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. La souffrance n'est jamais facile. En même temps, la souffrance est toujours quelque chose que nous pouvons surmonter. Il n'y a aucune souffrance dans la vie que nous ne pouvons pas surmonter. Et Pierre, il en prend pour preuve l'exemple suprême. Nous l'avons évoqué brièvement la semaine dernière, mais aujourd'hui, Pierre, il va mettre l'accent là-dessus. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Jésus est l'exemple suprême. Jésus est parfait. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il a toujours agi comme il fallait. N'a jamais rien dit de travers. Ne s'est jamais mal pris avec quelqu'un. N'a jamais eu de mauvaise pensée. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il était juste, comme Pierre dit dans ce verset. Totalement. Et pourtant, Jésus a souffert. Et lorsque nous réfléchissons à la vie de Jésus, souvent nous pensons à ses miracles. Nous pensons à tout le bien qu'il a fait autour de lui. Nous pensons, oui, à son exemple, quand il agissait bien avec ceux qui l'entouraient. Nous pensons à son témoignage devant Pilate, devant Hérode. Mais nous ne pensons peut-être pas autant que nous devrions à ses souffrances. Et pourtant, les quatre évangiles nous relatent que Jésus, il est arrêté comme un brigand dans le jardin de Gethsémané. On vient de nuit le prendre de force. On l'emmène devant des gens qui étaient totalement injustes, avec un procès qui a bafoué complètement les lois en place. Et puis on l'a condamné à mort pour avoir fait le bien. On a relâché quelqu'un qui était un meurtrier à sa place. Et on l'emmène pour être crucifié. Il est effectivement crucifié. Il est réellement mort. Et si cela n'est pas de l'injustice, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et Jésus a réellement subi tout cela. Lui, juste pour des injustes. Il a souffert une fois pour les péchés. Quel péché? Les siens? Mais non, il n'en avait pas, vous le savez. Il a souffert pour nous. À la limite, on veut bien souffrir pour ses propres fautes. Si j'agis mal et je suis puni, ok, bon, ça ne fait pas plaisir, ça fait mal, mais au moins, on peut dire que je l'ai mérité. Jésus, il n'a rien mérité de ce qui lui est arrivé. Mais il a souffert. Et cette idée que Jésus a souffert nous permet de dire que Jésus sait par quoi nous passons. Nous ne pouvons jamais dire, oh, Jésus est là, mais bon, finalement, il ne sait pas trop ce par quoi je passe. Ma situation, elle est particulière. Non, Jésus a souffert aussi. Le Fils de Dieu a souffert. Vous imaginez? Et il a souffert pas juste pour les méchants, pas juste pour les autres. Non, il a souffert pour nous. Regardez, verset 18. Christ aussi a souffert une fois, c'était une seule fois, il n'avait pas besoin de souffrir de nouveau, mais une seule fois, pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu. Pierre se met là-dedans. Il met les chrétiens auxquels il écrivait. Nous avions besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Moi, je suis né dans le péché. Je m'identifie avec ce que David dit dans les psaumes. C'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Nous sommes nés dans le péché, tous, sans exception. Et il fallait la souffrance, et la souffrance ultime, la mort de Jésus-Christ, pour nous emmener à Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et Pierre dit, Jésus a accepté de souffrir la justice, de souffrir d'être battu, de souffrir la moquerie, de souffrir le crachat, de souffrir la croix, pour nous, parce qu'il savait que c'était le seul moyen de nous emmener à Dieu. Et je loue Dieu qu'il a accepté de faire cela. Imaginez-vous, bon, c'est presque inimaginable, mais essayons un peu, notre imagination, si Jésus, il avait refusé Il avait dit à un moment donné, ah non, là, c'est de trop. Je peux supporter, mais là, ça devient de trop. Bah, imaginez-vous. Bah, nous serions les plus malheureux de tous les hommes et les femmes. Parce que nous ne serions pas sauvés, pas de salut, si Jésus il n'était pas allé jusqu'au bout. Et dans ce verset 18, Pierre montre que Jésus, cet exemple suprême, doit nous encourager. Et on se dit, oui, mais c'est normal, il est Dieu, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement que d'obéir, de se soumettre, d'accepter cette souffrance. Quelque part, il n'avait pas de choix. J'en suis pas certain. Dans le jardin de Gethsémané, quelle est la prière de Jésus ? Si cette coupe peut passer de moi. Père, si je n'ai pas besoin de boire cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Je vous soumets que, quelque part, c'est un peu un mystère, mais Jésus, il avait un choix. Il devait choisir d'accepter la souffrance qui lui avait été préparée. Et bien sûr, il a fait, gloire à Dieu. Mais il avait ce choix. Et aujourd'hui, tout comme Jésus, nous avons un choix. Il y aura de la souffrance dans notre vie. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est vrai. Il y a peut-être déjà de la souffrance dans votre vie aujourd'hui. Il y aura peut-être cet après-midi, ou ce soir, ou demain. La souffrance de mille et une manières dans votre vie. Et nous avons le choix d'accepter. Accepter cette souffrance comme venant de Dieu, ou bien essayer par toutes les manières de la refuser, de la repousser, de nous en sortir pour éviter à tout prix la souffrance et le mal qui pourrait venir. Et nous voyons l'exemple de Jésus qui, lui, face à la souffrance suprême, a fait le choix de faire confiance à Dieu, d'accepter de la part de son Père ce qui lui avait été préparé. Et sommes-nous prêts à faire ce même choix ? Et vous allez dire, mais c'est Jésus, c'est normal, il est Dieu, il ne pouvait pas faire autrement, il est normal que lui, il fasse ce choix-là. Mais moi, simple être humain, qu'est-ce que moi je peux faire dans ce monde si dur, si cruel, avec toutes les tentations, avec tout le mal, toute l'injustice qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que moi je peux faire face à cela ? Et il est vrai, si on regarde tout simplement de manière humaine, on peut se dire, on est totalement impuissant. On n'y peut rien, il vaudrait mieux fermer la Bible, rentrer chez soi et puis dire, je fais de mon mieux et voilà, on verra par la suite. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est que la souffrance existe et que la souffrance par moment, et comprenez bien, soyez attentifs, la souffrance est par moment, pas toujours, mais par moment, la volonté de Dieu. Nous l'avons déjà vu au verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et cette idée de la volonté de Dieu va revenir dans quelques versets, on va le voir. Mais c'est parfois la volonté de Dieu. Et parce que tel est le cas, refuser la souffrance, combien elle soit dure, revient à rejeter, à refuser la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on comprend que comprendre ce que Dieu a préparé pour nous est tellement important. Et avec l'exemple de Jésus, avec la puissance de Dieu qui est en nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons la capacité de bien agir, d'accepter avec joie ce que Dieu permet dans notre vie. La réussite, l'acceptation, la bonne décision devant cette souffrance, elle est possible. Tout n'est pas perdu à l'avance. Notre vie dans ce monde n'est pas tout simplement une acceptation fataliste de choses qui viennent dans notre vie. Prenez ces instants de vérifier que votre appareil électronique soit éteint si jamais éteint ou sur vibreur. Nous avons la possibilité d'accepter n'importe quelle souffrance. Pensez à la souffrance la plus extrême, la plus grande injustice que vous pourrez imaginer. Nous avons la possibilité d'accepter cela. Encore une fois, comprenons, est-ce que cela veut dire que c'est facile? Non. Comme j'ai dit au début, ne laissez personne vous dire que la souffrance, elle est facile. Non, la souffrance est difficile. Soyons clairs là-dessus. Est-ce qu'il est possible de pouvoir la surmonter et de la supporter par la grâce de Dieu? Absolument. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ dans ces versets. Et nous voyons dans la suite de verset 18. Une fois que Christ a souffert, il a été mis à mort quant à la chair, donc son corps humain, mis à mort. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été ressuscité, gloire à Dieu. Et puis, verset 19, Pierre va commencer à expliquer des choses assez difficiles. Okay. Je vous avoue que les versets qui suivent sont assez difficiles à comprendre. On va essayer de brièvement comprendre ce qui se passe ici, tout en reconnaissant que il y a des choses assez dures à comprendre. Alors, verset 19, dans lequel, c'est-à-dire en esprit. Il était en esprit lorsqu'il a fait ceci. C'est dans cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Là, vous allez vous dire, quoi? Il a fait quoi? Eh oui, il paraît, selon la parole de Dieu, qu'au moment de sa mort, Jésus, et il y a d'autres versets qui le montrent également, Jésus est descendu dans ce lieu d'attente pour prêcher aux esprits en prison. Et ces esprits en prison sont précisés au verset 20. Ce sont ces esprits-là qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Dans laquelle, donc dans cette arche, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, il semble que Pierre fait référence à Genèse chapitre 6. Nous n'avons pas le temps, et ce n'est pas le but du message ce matin, d'essayer de déterminer qui sont les fils de Dieu de Genèse 6. Si vous voulez avoir une discussion là-dessus, vous venez me voir après le culte et par la suite on pourra en discuter. Mais ici, il semble que Pierre fait référence à ça et que dans Genèse 6, lorsque Dieu a jugé le monde par le déluge, en plus de cette catastrophe naturelle qui est intervenue, ce déluge sur toute la terre, il y avait aussi un jugement spirituel contre certains esprits. Ce ne sont pas tous les esprits, mais certains. Et ces esprits ont été enchaînés dans cette prison dont il est question dans ces versets. Alors, il y a des versets dans 2 Pierre qui soutiennent cela. Jude également fait référence à cet événement. Et le but de Pierre ici n'est pas d'expliquer tout en ce qui concerne ni ces esprits, ni cette prison, ni exactement ce qui se passe. Son but, c'est de montrer que Jésus, une fois qu'il est mort, il est allé prêcher. Alors, ce n'est pas comme si Jésus a pris sa Bible, il est allé derrière un pupitre pour prêcher. Non, c'est finalement le mot « proclamer ». Il a annoncé, proclamé. Et qu'est-ce qu'il a proclamé? Il a proclamé sa victoire. Satan croyait gagner lorsque Jésus est mort sur la croix. Mais finalement, c'est Jésus qui avait la victoire. La mort de Jésus-Christ a apporté la victoire et non pas la défaite. Et c'est cette victoire que Jésus est allé annoncer. Vous pouvez penser plus au mot annoncer ou proclamer, si le mot prêcher vous donne peut-être une idée de quelqu'un derrière un pupitre en train de prêcher. Donc c'est vraiment l'idée de proclamer, annoncer. Et Jésus a fait cela. Pourquoi ? Pour montrer que ce qu'il avait accepté de la part de Dieu, finalement, n'était pas la fin de tout. Au lieu d'être la pire chose qui pourrait arriver, c'était la meilleure. Parce que sa souffrance et même sa mort apportaient le salut pour toute l'humanité. C'est ce que Pierre explique ici. Il fait le lien avec Noé. Et comme Noé, pendant la construction de l'arche, c'est 120 ans, eh ben, Noé a prêché également, a appelé les gens à se repentir. Il n'y avait que 8 personnes, Noé, sa famille, qui ont été sauvées à travers l'eau. Et c'est au verset 21 où Pierre il va devenir un peu plus explicite. Il va dire « Cette eau, donc l'eau du déluge, était une figure du baptême. » Alors, ce n'est pas le baptême même, mais une figure, une image du baptême. Alors, ce baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Non, ce n'est pas possible parce que de toutes les façons, Noé et sa famille étaient dans l'arche, n'ont pas été touchés par l'eau. Mais ce baptême qui a été préfiguré par le déluge, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême ne sauve pas. Soyons tous clairs là-dessus. Par contre, le baptême est un pas d'obéissance pour l'enfant de Dieu. Et si on n'a jamais fait ce pas d'obéissance envers Dieu après le salut, on n'a pas une bonne conscience envers Dieu selon ce verset. Si on est enfant de Dieu et on ne s'est jamais fait baptiser, on n'a pas une bonne conscience devant Dieu, du moins si on le refuse. Si quelqu'un dit « Je suis sauvé, mais je n'ai pas besoin d'être baptisé », il est impossible que cette personne ait une bonne conscience envers Dieu. Pierre dit « Cette image qui était le déluge du baptême montre, montre cette bonne conscience envers Dieu. » Et puis, il continue dans le verset 21, « Et qui maintenant vous sauve ?» Est-ce que le baptême sauve ? Non. C'est le salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, Pierre continue, « Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » Non, c'est la mort, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui sauve. Et parce que nous sommes sauvés, nous nous faisons baptiser, immerger littéralement. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais Pierre dit, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, eh ben, il a accompli tout ce que Dieu a préparé pour lui. Il est allé jusqu'au bout de cette souffrance ultime pour nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Bien sûr qu'on place notre foi en lui, mais aussi ben, qu'on manifeste concrètement cela par le baptême, pour montrer notre appartenance à Dieu. Et Pierre dit dans le verset 22, il est allé à la droite de Dieu. Pierre savait ce qu'il annonçait, puisqu'il avait été là. Il était là sur le mont, quand il a vu Jésus s'en aller au ciel, Actes chapitre 1. Et puis, Pierre était là lorsque Jésus a prononcé ses paroles dans Actes chapitre 1, verset 8. Nous connaissons tellement bien, vous serez mes témoins. Témoins des Lumières. Vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est là où ça doit commencer. En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comment cela ? Eh bien, c'est par la puissance qu'il allait envoyer. Nous ne sommes pas témoins par nous-mêmes, par notre propre puissance. Mais par la puissance qui nous vient de Dieu. Mais cette puissance, comment est-ce que nous y accédons ? Eh bien, c'est par la soumission et par l'obéissance à Dieu. Si nous refusons d'obéir à Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu va nous aider avec sa puissance ? Ben non. Si nous refusons de nous soumettre à ce que Dieu a pour nous, si nous croyons mieux que Dieu, comment régir notre vie? comment agir, comment même penser. Si nous croyons mieux que Dieu faire des choix dans notre vie, comment est-ce que nous pouvons prétendre accéder à la puissance que Dieu veut manifester à travers nous? Si nous refusons de nous soumettre à Dieu, nous serons totalement incapables de surmonter la souffrance qui vient dans notre vie. Pierre dit ici, Jésus, il a tout accompli. Il nous a donné l'exemple. En plaçant notre foi en lui, nous avons la possibilité d'accéder à cette puissance. Mais ce verset 22 nous montre que, oui, Jésus est allé au ciel, mais il n'est pas inactif. Il n'est pas là-haut en train d'attendre les bras croisés en disant « Faites de votre mieux, vous êtes sur la terre, et puis moi je suis au ciel. » Non. Oui, il est au ciel, mais regardez, les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. C'est-à-dire que oui, Jésus est au ciel, mais il contrôle ce qui arrive sur la terre. Y a-t-il quoi que ce soit qui arrive sur la terre qui est en dehors du contrôle de Dieu? Et la réponse à cela est non. Tout ce qui arrive dans votre vie est contrôlé par Dieu. Tout ce qui arrive dans ma vie est contrôlé par Dieu. Tout lui a été soumis. Rien n'échappe à la puissance de Christ. Et cela inclut ma vie. Ma vie ne lui échappe pas. Les choix que je fais ne le surprennent pas. Mon manque de confiance, par moment, ne le surprend pas. Ça l'attriste, oui, mais il n'est pas surpris. Et la souffrance devant laquelle je suis ne le surprend pas, ne le dépasse pas. Et parce que lui, il m'aide, parce que le Saint-Esprit est en moi, si je suis enfant de Dieu, je suis capable d'avoir la même victoire que Jésus-Christ. La même victoire que Jésus avait est accessible pour moi. Et c'est ce que Pierre explique dans le chapitre 4, verset 1. Vous savez, les chapitres, les versets, on les a fait intervenir bien plus tard. Au début, c'était juste un seul texte. Et ici, Pierre, il va continuer sa pensée. Chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, de la même manière, Christ ayant souffert dans la chair, n'oublions jamais cela. Christ identifie à notre souffrance. Il peut dire, mon enfant, je suis passé par ça. Je sais par quoi tu passes. Vous savez, parfois on dit, oui, quelqu'un nous partage un moment dur, une souffrance, une incompréhension, une injustice. On dit, ah ouais, je comprends. Et qu'est-ce qu'on répond par moment? Non, tu comprends pas. Non, ma situation, tu vois, elle est vraiment différente et tout. Et il est vrai, par moments, on ne comprend pas. Il y a des situations, parce qu'on n'est jamais passé par là, on ne peut pas comprendre. On peut compatir, on peut imaginer, mais on ne comprend pas. Ce n'est pas le cas avec Dieu, avec Jésus. Non seulement il a connaissance de toutes choses, donc théorique, mais il est passé par ça. Il a souffert dans la chair. Ce n'était pas simplement théorique. Non, c'était réel. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Et c'est là où intervient ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? La pensée du Christ. Ok, oui, c'est très bien, Robert. Ça, c'est normal, on comprend. Mais quelle pensée exactement? Pensée de obéissance. Pensée de soumission. Pensée de confiance en Dieu. Parce que si nous ne nous armons pas de ces pensées-là, nous serons automatiquement déstabilisés. Nous allons mal réagir. Mais si au contraire, nous nous armons, c'est-à-dire préparer, quelqu'un qui s'arme, il se prépare. S'assure qu'il a tout le matériel. S'assure qu'il a tout ce qu'il lui faut pour faire face à l'ennemi. Quelqu'un qui s'arme est prêt pour tout ce qui pourrait lui arriver. Et Paul, il va rejoindre Pierre quand il va dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Toutes, pas juste quelques-unes, pas juste une seule, toutes. Et Pierre, ici, il rejoint ce que Paul, il a dit, quand il dit « Armez-vous de la même pensée. » C'est spirituel que ça se passe. C'est dans les pensées. À quoi est-ce qu'on réfléchit? Quel est l'objet de notre pensée? Paul, il va dire dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Tout ce qui est honorable. » Et il fait toute une liste. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Et combien de fois dans notre vie, nos pensées vont plus vers de mauvaises choses? Ou peut-être des choses tout simplement inutiles. Ce n'est pas qu'elles sont forcément mauvaises en soi, mais n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Combien de fois nos pensées se tournent vers nous-mêmes? Sur la mauvaise situation dans laquelle nous sommes, nos pensées se tournent vers le passé, les échecs. Nos pensées se tournent vers les autres et leur infidélité, le mal qu'eux, ils font. Combien de fois nos pensées ne sont pas celles de Christ? Et après, nous nous étonnons que nous sommes impuissants face à la souffrance. Ici, Pierre dit, armez-vous, armez-vous, préparation. Et ce n'est pas une suggestion. Ce serait bien si, si vous y pensez, si vous avez le temps. Non, ici, c'est un commandement. Armez-vous. Revêtez-vous de cette pensée. Ayez cette pensée. Paul, il va dire la même chose dans Philippiens chapitre 2. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez cette même pensée. Nous sommes dans un combat, pas contre le gouvernement, non? Pas contre nos collègues, pas contre notre famille, pas contre les gens inconvertis, certainement pas contre nos frères et sœurs en Christ. Non. Le combat, il ne se situe pas là. Le combat est entre nous et Satan. Et aujourd'hui, il est possible d'avoir la victoire. Aujourd'hui, pour chaque enfant de Dieu, sans exception, la victoire est possible. Ce n'est pas juste pour les gens spirituels. Ce n'est pas juste pour une certaine catégorie, les gens les plus fidèles, les meilleurs, ceux de la première classe. Non. Ici, la victoire est possible, par contre, elle a des conditions. Et Pierre dit, armez-vous de cette même pensée, celle que Christ avait. Il nous donne l'exemple, il montre que c'est possible. Et nous n'avons pas le droit de dire, oui, mais c'était bien pour Jésus, il est Dieu, normal et tout, mais pour moi, je n'y peux rien. C'est faux. Pierre montre que c'est pour nous aussi. Jésus l'a fait pour nous montrer cet exemple afin que nous puissions le faire aussi. Et la question c'est, est-ce que nous voulons véritablement cette victoire? Ou est-ce que nous sommes plutôt contents avec notre train-train de vie aujourd'hui? Ne pas être trop dérangés, parce que, croyez-moi, cette décision de faire face aux souffrances avec l'esprit de Christ, avec la même pensée que Christ, c'est radical. Et cela va exiger des changements dans notre vie. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Et sommes-nous prêts à suivre Christ dans cela? Face à cette décision, on peut se dire, mais à quoi bon? La souffrance, elle est difficile, la souffrance, je n'en veux pas, c'est trop dur. La souffrance pour les autres, oui, peut-être. Eux, ils le méritent. Moi, je ne mérite pas. Non, 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 non. Lorsque nous acceptons la souffrance que Dieu permet dans notre vie, regardez la suite de verset 1 et le début de verset 2. Voici ce que Dieu promet. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Finalement, Pierre explique dans ces versets que non seulement la souffrance fait partie parfois, encore une fois, parfois, comprenez bien cela, parfois, pas toujours, parfois, la souffrance fait partie de la volonté de Dieu, mais en plus, la souffrance nous aide à avoir la victoire sur le péché. C'est quelque chose d'incroyable. Un des résultats de l'acceptation de la souffrance, c'est lorsque nous avons la victoire sur cette souffrance, lorsque nous réagissons bien, à ce moment-là, ben, nous avons la victoire sur le péché. C'est tellement extraordinaire, ça. Pierre dit, eh ben, d'un côté, il y a, oui, le péché, il y a vivre selon les convoitises des hommes. De l'autre côté, ben, il y a la volonté de Dieu. Et lorsqu'on présente les choses de cette façon-là, on se dit, est-ce qu'on veut la convoitise de la chair, la convoitise des hommes, la convoitise de notre ancienne nature, ou est-ce qu'on veut la volonté de Dieu? À mon avis, si je posais la question à chacun, votre réponse serait la volonté de Dieu. Nous voulons tous la volonté de Dieu. Par contre, nous ne voulons pas toujours ce qui vient avec. Et nous ne sommes pas prêts à faire des choix, des décisions, de nous armer de la même pensée de Christ pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Mais ce que Pierre explique dans ces versets, c'est que lorsque nous acceptons la souffrance, aussi difficile qu'elle soit, aussi dure, aussi par moments incompréhensible, même injuste qu'elle puisse nous paraître, lorsque nous acceptons cette souffrance, nous nous armons de la pensée de Christ, nous sommes obéissants, nous sommes soumis à ce que Dieu a préparé pour nous. Non seulement nous glorifions Dieu, nous rendons témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie, mais en même temps, cela nous aide à avoir la victoire sur le péché. Et quand Pierre, dans le verset 1, va dire « Celui qui a souffert dans la chair en a fini », c'est l'idée de rompre, de briser. Il a totalement rompu avec le péché. Afin de vivre, non plus, on le faisait dans le passé, mais on ne veut plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est notre désir? Je prie que oui. Sommes-nous prêts à faire des choix? À permettre à Dieu de nous changer radicalement? Pour l'avoir, puisque ceci est uniquement pour cette vie. Regardez la fin de verset 2. Selon la volonté de Dieu, pendant combien de temps? Le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire la durée de notre vie sur cette terre, et nous ne la connaissons pas. Deux événements ce week-end. Le premier, vous avez certainement entendu cette fusillade au Texas dans ce lycée. Drame. Total. De jeunes vies. Éteintes. Ces jeunes, je suis certain, ne se sont pas levés ce matin-là en disant « Aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur Terre. » Non, ces jeunes, des lycéens, ils se disaient « J'ai toute la vie devant moi. » Vous avez peut-être entendu parler de cet avion qui s'est crashé au Cuba. Là aussi, plus d'une centaine de personnes mortes. Croyez-vous qu'ils sont montés dans cet avion en disant ben, « Aujourd'hui, ma vie est finie ». Non, ils avaient certainement des projets. Aujourd'hui, nous nous sommes levés et je suis certain qu'aucun ici, personne dans la salle ne s'est dit « Aujourd'hui, c'est le jour de ma mort ». Je suis convaincu. Et si vous l'avez fait, ben, venez me voir après le culte, il faudrait qu'on discute. Mais bon, je suis certain que personne ne se lève le matin en disant ben, « Aujourd'hui, je vais mourir ». Non, on pense à la vie. J'ai toute cette journée devant moi. J'ai toute ma vie devant moi. Et je prie que chacun, aujourd'hui, puisse ben, vivre une vie longue, bénie, heureuse. Mais nous ne savons pas combien de temps notre vie sera. Nous ne savons pas quand cette vie prendra fin, soit par notre mort, soit par le retour de Christ. Et Pierre dit de pouvoir faire la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste. Combien de temps? On ne sait pas. Voilà pourquoi il faut agir aujourd'hui. Ceci ne peut pas attendre demain. Il n'y aura peut-être pas de demain. Il ne s'agit pas de dire, comme je fais tellement avec mon footing, « Ah oui, je le ferai demain. » Hein? Ou « Je le ferai le lendemain. » Ou « Après-demain. » Ou « Je commence la semaine prochaine. Hein? » Non. Le temps qui lui reste de vivre dans la chair. Aujourd'hui. Et ce qui est formidable, c'est que cela est possible. Ce que nous devons retenir de ce texte, c'est que la victoire dans la souffrance et sur le péché est possible. Mais il faut s'armer des mêmes pensées de Christ. Chaque jour, il faut se lever en disant « Dieu, aide-moi à avoir les pensées de Christ. Aide-moi à me préparer pour cette journée afin que là où je subis l'injustice, et ça arrivera, je puisse bien agir. Là où quelque chose arrive dans ma vie que je ne comprends pas, là où ça fait mal, je puisse bien réagir. Cela est possible pour chaque enfant de Dieu. C'est possible pour vous, pour moi. Mais selon les termes que Dieu met dans sa parole, Pierre montre ici que c'est lui, il a pu le faire, si Dieu a pu le relever, si lui, il a pu avoir la victoire, voilà, c'est pour tous. Faire la volonté de Dieu, qui implique parfois la souffrance, mais qui implique aussi cette relation avec Dieu, ce témoignage, quelque chose de tellement formidable, c'est pour aujourd'hui. Ne perdons pas de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Christ est notre exemple. Il compatit avec nous. Il nous comprend. Pas simplement de manière théorique, mais de manière pratique. Il a souffert pour nous. Et à cause de cela, il peut nous aider. Sommes-nous prêts à prendre cette décision? Ça va impliquer des changements dans notre vie. Ça va impliquer que ben, je me lève le matin, peut-être avec une routine différente. Ça va impliquer que peut-être je ne fréquente plus certains lieux, certaines personnes. Ça va impliquer que je passe plus de temps dans la parole. Ça va impliquer que je passe plus de temps dans la prière. Ça va impliquer que ben, je fais des sacrifices pour venir plus souvent aux réunions d'église. Ça va impliquer que je sors de mon zone de confort pour témoigner. Les changements que Dieu veut face à ses souffrances, c'est pour sa gloire. Et cela nous aidera ben, à nous éloigner du péché et vivre pour la gloire de Dieu. C'est tellement merveilleux et c'est pour nous. Pas simplement pour les autres, c'est pour nous. Allons-nous le faire? Ben, c'est au choix de chacun. Tout comme le salut, un choix personnel, ben, ce choix, cette décision personnelle. Chacun doit se remettre en question devant Dieu, avons-nous les mêmes pensées que Christ? Sommes-nous armés de cette pensée? Si ce n'est pas le cas, prenons cette décision aujourd'hui de le faire. Passons quelques instants dans le silence devant Dieu pour demander son aide. Nous sommes devant toi, Seigneur, et rien n'est caché à tes yeux. Tu vois jusqu'au fond de notre cœur, tu nous sondes. C'est toi qui nous as créés. Nous ne pouvons rien te cacher. Et nous reconnaissons que nous n'agissons pas toujours comme tu veux. Nous n'avons pas toujours les pensées que tu veux. Nous ne nous préparons pas toujours comme il faut. Nous te remercions que tu nous donnes ces paroles de Pierre qui nous rappellent, qui nous montrent que cela est possible. Nous te remercions pour l'exemple de Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes de refléter la vérité de ta parole. Nous te demandons pardon pour notre manquement, pour nos oublis dans ce domaine, notre résistance, notre désobéissance. Et nous te remercions que tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu qui fortifie et qui rend puissant, qui rend capable là où nous sommes incapables. Nous implorons ton aide pour cette journée. Tu vois la souffrance qui pourrait venir dans notre vie. Que tu nous aides déjà à nous y préparer, à te faire confiance, à nous armer de cette pensée que toi, tu as, de nous souvenir de ta volonté. Et ainsi, Seigneur, que nous soyons des lumières, des témoins, des flambeaux dans ce monde de ténèbres, que tes enfants agissent comme toi, tu le veux, et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. C'est en ton nom que nous prions. Amen.